Dutrisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Dutrisac.
Éric Jeté est avec nous. Il y a des choses à aborder avec cette page en 5 minutes. Aujourd'hui, c'est...
Je te parle pas de la page en 5 minutes d'aujourd'hui parce que j'ai décidé de faire différent. J'ai décidé de faire différent, Benoît. Okay. J'avais le goût de te parler d'un sujet scientifique qu'on n'a pas abordé avec la page en 5 minutes, mais qui, je trouvais, méritait mon attention scientifique aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose de fou samedi. Puis moi, j'aime beaucoup ce qui se passe de manière astronomique. J'adore l'astronomie. Et il s'est passé quelque chose de complètement cinglé samedi. Mais il fallait être à un endroit précis où je n'étais pas. Parce que ça coûtait très cher se rendre en Antarctique. Toi, t'es-tu déjà allé en Antarctique? Non. Ça coûte cher aller là. Là. Tu peux pas te décider.
Je connais pas de pingouins pour
aller. Ben non, c'est ça. Mais il y a eu en Antarctique samedi un éclipse solaire totale qui a fait passer l'Antarctique qui est en été complet à l'obscurité complète pendant un genre de 1 heure. C'était fou. Ok, j'ai vu les images de ça sur la caméra de la NASA. On nous mettait une image. Ça coûtait moins cher de regarder ça de chez soi parce que les gens qui étaient là-bas...
Moins dangereux aussi.
C'est vrai. Il y avait des scientifiques, des amateurs de sensations fortes qui se sont déplacés jusque-là. Des pingouins aussi. Il y avait une couple de pingouins qui assistaient à ça. Mais pour assister à ça, les gens ont payé quelques 40 000 $ pour avoir le privilège d'être au bon endroit au bon moment. Il fallait se rendre au camp de l'Union glacier. Ça a été observé. On a pu observer l'éclipse à ce moment-là. On était à 1000 km au nord du pôle sud. Donc, on est vraiment, vraiment proche du pôle sud. Quand même, 1000 km, c'est pas tant que ça. Et c'est vraiment rare parce que ça prend un lieu précis. Là, on sait qu'un éclipse solaire, ça se produit quand la Lune passe entre le Soleil et la Terre et ça projette son ombre sur la Terre, dans le fond. Mais là, ce qui est fou, c'est que il faut que tu sois là, vraiment sur la ligne. Là. La ligne précise de ça. Et ça a commencé donc vers 2 heures du matin. Heure de l'Est. Et lorsque la Lune a commencé à se déplacer dans le Soleil, ça a duré comme 1 heure, puis vers 3h06, c'était complètement fini. Mais pendant un moment, là, il y avait une espèce de halo parfait. Il faisait super noir, alors qu'en ce moment, dans ce coin-là, il fait jour tout le temps. Il fait jour tout le temps. Le Soleil se couche pas. Donc
moi, j'arrête pas de voir Tintin au Temple du Soleil. Qui se sauve d'un bûcher parce qu'il a lu l'arrivée d'une éclipse solaire.
Ouais, mais tu sais, il y a certaines méthodes aussi là pour le regarder en toute sécurité. Hein. Ouais. Ça arrive. Selon la NASA, il y a une éclipse partielle qui était aussi visible dans certains endroits du monde, notamment en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande et en Australie. La dernière éclipse solaire totale a s'est produite en Antarctique le 23 novembre 2003 et la prochaine est pas attendue avant 2039.
Je serais pas là.
Non, tu penses pas?
Non, je pense pas.
Mais là, franchement,
Je serais pas là. Genre, 2039,
mais oui,
119 ans.
Ben, t'es capable de te rendre jusque-là. Ouais, t'es en forme, t'es en pleine santé.
Je suis pas sûr de me rendre à 61.
T'es en pleine santé, franchement.
On a eu une éclipse solaire récemment, là, il y a un an ou deux.
Oui, mais elle était pas complète. Elle était pas...
Ça faisait pas.
Non, c'est ça. Moi, je te parle d'événements astronomiques complètement cinglés là, qui arrivent ça vraiment
change,
à des endroits
précis. Ça change quoi, ça, l'éclipse solaire? Est-ce que ça affecte la marée? Est-ce que ça affecte l'humeur des pingouins?
Moi, je suis pas allée vérifier l'humeur des pingouins. Je peux pas t'en dire là-dessus. Mais par contre, on sait que la Lune a un effet sur les marées un peu partout dans le monde.
Les naissances?
J'irai pas jusqu'à dire les naissances. Là. Moi, je suis pas tombée enceinte miraculeusement à la dernière pleine lune. Là.
Attends de voir. Attends. Hey, moi, c'est ce que j'aimerais. J'aimerais une page. Une page, j'aimerais ça.
Je vais te faire une page sur...
Je sais pas en formuler ça, mais sur les valeurs nutritives de la sauce brune.
OK, t'as envie de parler de la page du journal, la page couverture du journal aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Non, mais la sauce brune, moi, j'adore ça. J'adore ça, la sauce brune.
Pas à tous les jours.
Pas à tous les jours, non.
Pas à tous les jours.
Mais il y a tellement de sortes de sauces qu'on peut faire, Benoît. Moi, je me demande, c'est ça que je vois comme problème, tu sais.
Ouais.
Moi, j'adore cuisiner. Je fais beaucoup de sauces maison.
Ouais.
C'est si facile de faire une bonne sauce.
Ouais.
C'est si facile. Pourquoi se résigner à seulement mettre de la sauce brune sur tout?
Parce que je pense qu'il y a une collusion, puis je demande une commission Charbonneau de la sauce brune, parce qu'il y a une collusion, de la corruption. Quelqu'un, quelque part, un fournisseur du gouvernement, a le monopole de la sauce brune.
Oui.
Puis il passe partout.
Oui.
Sauf dans les repas des élus, évidemment. Pas à l'Assemblée nationale.
Évidemment.
Mais dans toutes les institutions,
oui.
On nous impose la sauce brune.
Donc, t'aimerais que je te parle de la valeur nutritive de la sauce brune? Je vais consulter mon
roux,
équipe en 5 minutes.
Un roux?
Oui.
Avec... du bouillon de bœuf?
Oh oui.
C'est ça.
Le tour est joué, là.
C'est pas une grosse page. Le
tour est joué.
Laisse faire là-bas. Y a-t-il autre chose?
Mais oui. Dans le Journal de Montréal de samedi, il y avait notre bureau d'enquête qui nous parlait des caribous. Hein? Les caribous forestiers, ils nous ont montré des images exclusives des derniers caribous de la Harde de Val-d'Or. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ils les ont mis en enclos en mars 2020 pour les protéger parce qu'ils sont rendus juste 7. Il y a seulement 7 caribous forestiers dans ce coin-là. Ils sont nourris dans des mangeoires. Ils vivent dans ce territoire-là qui est encerclé avec des immenses clôtures parce que ce sont nos derniers survivants. Puis c'est comme un peu une image du fait que la biodiversité est en train de s'effriter à cause de l'activité humaine, hein? L'industrie forestière notamment. Donc, dans le journal de samedi, il y avait ce dossier-là. Et pour accompagner le dossier, j'ai donc décidé de faire un espèce de portrait de ce caribou forestier. De qui est-il? Là, on dit qu'il en reste 7 à Val-d'Or qui sont protégés. Il y en a environ 23 dans Charlevoix. ça se passe pas très bien. En Gaspésie, il y en a quelques dizaines aussi, mais on en a de moins en moins. Cette espèce-là, on la trouve en dehors du Canada. Elle vit surtout dans la toundra scandinave. Il y en a en Laponie, en Islande, en Sibérie, en Alaska.
Faites jouer du Mario Pelcha pour qu'ils se reproduisent un peu.
Ouais, mais c'est parce qu'il faut pas qu'ils se reproduisent avec leurs frères et sœurs non plus,
non.
Parce que ça pourrait être problématique.
Ouais.
C'est vraiment un beau spécimen. Je sais pas si t'en as déjà vu en vrai, mais j'ai regardé des documentaires animaliers la semaine passée là, quand je m'intéressais à ce dossier-là. C'est vraiment un beau mammifère. Il est herbivore, donc il mange des arbres feuillus surtout. Et là, les arbres feuillus du coin, sont tous coupés. Là, tu sais, l'industrie forestière complètement détruit leur habitat. Ils mangent aussi du lichen. Donc, tu sais, c'est tranquille, ça se nourrit dans son coin.
Oui.
Puis c'est pas très bruyant. Les femelles et les petits font un peu de bruit. Mais sinon, on parle d'un petit grognement. Les mâles grognent très rarement.
Est-ce que la chasse a un rôle dans...
Pas vraiment, non. Pas, non. C'est pas ça le problème. C'est vraiment une question d'habitat. Puis aussi de prédateurs. On parle des loups, entre autres, les ours bruns et les lynx qui les attaquent parfois. Mais ils seraient pas là. Ces animaux-là ne seraient pas un problème. Il y aurait pas de problème de prédation si l'environnement avait été préservé. Parce que normalement, en temps normal, son habitat, il contient pas ces animaux-là qui peuvent être une menace pour lui. Ça y prend juste des arbres, mais on les a enlevés, tu sais. Puis c'est majestueux, un caribou forestier, là. Ça a un grand panache. Celui de la femelle et du mâle sont différents. Mais tu sais, des grands bois de couleur ambre. Mmh. Et puis là, ils ont une espèce de grande barbe blanche aussi, là, en dessous.
Je suis en train de virer caribou.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on va remplacer la...
C'est
bon. On a trouvé une solution. On a trouvé une solution.
Oui, c'est ça. Guérir du VIH, ça se peut. Hein?
Oui, y a des gens qui ont guéri de manière un peu miraculeuse du VIH. On sait pas trop.
Donc, le virus n'est pas apparent. Là. On cherche le virus.
Oui, donc c'est mon balado de vendredi. Puis sinon, demain, je te parle de l'oxygène qu'on trouve sur la Lune. Mais ça va prendre de la machinerie pour l'enlever de la roche avant de pouvoir respirer cet oxygène-là.
Ouais.
Donc, il y a possibilité qu'on puisse respirer sur la Lune de manière... quand même faisable, mais ça va prendre beaucoup de machines.
Puis des pailles.
Ouais, je ne sais pas trop.
OK, parfait. Merci, Élise.
Ça a été un plaisir, Benoît. Allez.